Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International. Voici les titres de l'actualité tchèque. Le dépistage du variant britannique du Covid-19 est désormais prioritaire en Tchéquie, selon le Premier ministre. Le président Miloš Zeman doit se faire vacciner contre le Covid-19 ce mercredi. Plusieurs pays membres de l'Union européenne protestent contre les quotas tchèques sur les produits alimentaires. Les autorités sanitaires tchèques devraient désormais se concentrer sur le traçage des cas du variant britannique du Covid-19, selon le Premier ministre Andrej Babiš. Le chef du gouvernement a déclaré que la propagation de ce nouveau variant du coronavirus avait été au cœur de son entretien mardi avec la chancelière allemande Angela Merkel, étant donné que l'apparition du variant a été signalée en Allemagne, en Slovaquie ou en Hongrie. D'après Andrej Babiš, les services d'hygiène tchèques continueront à tracer tous les cas de Covid-19, mais ils donneront la priorité aux variants britanniques plus contagieux. Il a été dépisté ces derniers jours à Prague, en Bohême centrale, ainsi que dans la région de Hradec Králové. Plus de 900 000 personnes ont été contaminées en Tchéquie depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en mars dernier. Environ 85% d'entre elles sont considérées comme guéries. Mardi, plus de 9 500 personnes ont été testées positives au coronavirus, soit 1 200 de moins qu'il y a une semaine. Le nombre de personnes hospitalisées est passé à 6 600 mardi contre près de 7 000 lundi. Toutefois, l'index de risque épidémique qui était à la baisse ces derniers jours est remonté de 70 à 73 points sur 100. Le président Miloš Zeman va se faire vacciner contre le Covid-19 ce mercredi à l'hôpital militaire de Prague, a fait savoir la chancellerie présidentielle sur son site web. Le président restera à l'hôpital pour au moins 24 heures pour des examens médicaux préventifs, a annoncé le château de Prague. Le président Zeman est âgé de 76 ans et souffre actuellement de maux qui rendent ses déplacements à pied difficiles. Il a été opéré l'année dernière après une fracture du bras. 8 membres de l'Union européenne s'opposent à l'introduction de quotas pour favoriser les produits alimentaires tchèques, essentiellement issus de l'agriculture, dans les magasins du pays. Un projet de loi qui a été adopté ce mercredi à la Chambre des députés. Dans une lettre adressée au préalable au président de la Commission agricole du Parlement, Jaroslav Faltinek, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche notamment estiment que de tels quotas représenteraient une discrimination vis-à-vis des produits importés de l'Union européenne et serait incompatible avec le marché unique. La Commission européenne a déjà mis en garde la République tchèque contre l'introduction de quotas alimentaires obligatoires sur les produits agricoles tchèques. Selon la Commission, une telle décision irait à l'encontre des lois de l'Union. Si adopté, le principe des quotas concernerait environ une centaine de produits de base tels que la viande et les légumes. Proposé par le parti d'extrême droite SPD, le projet de loi approuvé prévoit que les rayons des magasins d'alimentation en République tchèque soient composés pour au moins 55% de produits d'origine tchèque, une part qui augmenterait ensuite chaque année pour parvenir à un taux de 73% en 2028. La loi a toutefois également fait débat dans le pays alors que le premier ministre tchèque Andrej Babiš a fait fortune grâce au groupe agroalimentaire Agroferte. Président du groupe parlementaire du parti conservateur Top 09, Miroslav Kalousek a annoncé mardi qu'il renonçait à son mandat de député. Et il avait déjà fait savoir auparavant qu'il n'avait pas l'intention de se présenter aux prochaines élections législatives de 2021 et qu'il préférerait laisser son siège à quelqu'un d'autre lors du scrutin de l'automne prochain. Miroslav Kalousek évolue dans les hautes sphères de la politique tchèque depuis 22 ans, ayant occupé le poste de ministre des finances et de leader du parti Top 09. Zdeněk Steinberg, héritier de la lignée des comtes de Steinberg, une des plus anciennes familles de la noblesse du territoire tchèque, est décédé à l'âge de 97 ans. Né en 1923 à Prague, il a fait des études de droit à l'université Charles, mais n'a pu être diplômé en raison des persécutions du régime communiste après 1948. Il a dû travailler comme mineur dans les mines de charbon d'Ostrava. et puis plus tard comme machiniste au théâtre musical de Kalin. Il a émigré en Autriche avec sa famille en 1968, où il a vécu jusqu'à la révolution de velours. Après la révolution, il est rentré dans son pays natal et a pu récupérer le château familial de Český Štenberk dans le cadre des restitutions. Côté météo, jeudi, jour de fête des Biélas, les températures toujours en légère hausse avec 4 degrés pour les moyennes maximales et jusqu'à 7 degrés en Bohême centrale ou à l'est du pays. La journée sera caractérisée par des éclaircies. C'était les informations de Radio Prague International. Notre programme se poursuit.
Faits et événements en République tchèque.
Place en effet à la suite de notre émission avec au sommaire la situation à l'aéroport de Prague qui a vu sa fréquentation s'effondrer en 2020, l'histoire des sections tchécoslovaques puis tchèques en France et la première partie de notre nouvelle série intitulée Checkmate et consacrée à l'histoire des inventions et des marques tchèques. Très bonne écoute à toutes et à tous. En 2020, la fréquentation à l'aéroport de Prague a chuté de 79%. Le principal aéroport tchèque a accueilli au total 3,66 millions de voyageurs contre 17,8 millions en 2019. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, l'aéroport de Prague constate une baisse historique de sa fréquentation l'année dernière. En effet, les chiffres sont au plus bas depuis 2013, l'année qui a marqué le début d'une augmentation progressive du nombre de vols et de passagers. En janvier et février 2020, l'aéroport pragois a encore accueilli plus de 2 millions de passagers, soit une fréquentation record enregistrée au cours des deux premiers mois de l'année. Avec l'arrivée de la crise du coronavirus, la fermeture des frontières et le confinement, la fréquentation a baissé de 99%. Le trafic à l'aéroport de Prague a aussi fortement diminué avec un peu plus de 54 000 vols qui ont été opérés l'année dernière, soit une baisse interannuelle de 65%. Les vols à destination du Royaume-Uni ont été les plus fréquentés avec 525 000 passagers, suivis des vols à destination de France et de Russie. Quoi de plus banal qu'un morceau de sucre? Et pourtant, au XIXe siècle encore, on se coupait parfois les doigts en taillant dans de gros pains de sucre très durs et bien peu pratiques. Jusqu'à ce qu'un industriel autrichien à la tête d'une raffinerie en Bohême du Sud se mette à produire de petits morceaux géométriques, permettant ainsi le développement de la vente du sucre au détail. Une idée révolutionnaire à l'époque pour un produit aujourd'hui très commun, dont voici l'histoire dans notre nouvelle série Checkmate, consacrée aux grandes et petites inventions et aux marques tchèques. Ce premier épisode vous est présenté par Guillaume Narguet.
Né en Suisse, Jakob Christoph Rad en allemand, était le directeur autrichien de la raffinerie de sucre qui se trouvait à Datchitze. Datchitze, une petite ville de sud-ouest de la Bohême qui aujourd'hui, est sur son site internet, se présente fièrement comme la ville qui a donné le sucre en morceaux au monde. Quelques 170 ans plus tard, le monument en forme de morceau de sucre, mais en granit, qui se trouve au milieu du parc du château de Datchitze, rappelle cette histoire. L'histoire aussi très riche de l'industrie sucrière dans les pays tchèques, à laquelle Daniel Froněk du ministère de l'Agriculture a même consacré un ouvrage.
Les fabricants de sucre ont grandement participé au développement de cette activité. Très vite, la culture de la betterave sucrière a été un succès car la terre était de qualité et les conditions climatiques idéales. 90% de la production de sucre dans l'Autriche-Hongrie provenait de ce qui est aujourd'hui la République tchèque.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on recensait jusqu'à 230 sucreries ou raffineries en Bohême et en Moravie, souvent des manufactures de petite taille qui, pour leurs dirigeants et leurs employés, présentaient l'avantage de pouvoir expérimenter sans trop grand risque de perte, comme par exemple avec le procédé d'extraction de sucre par diffusion. Mais la plus grande invention restera bien entendu celle de la production de sucre en morceaux. Et si Jakub Krzysztof Rad, arrivé à Dachice en provenance de Vienne en 1840, a bien fait breveter son invention, c'est toutefois la femme de l'industriel autrichien Juliana Radova qui en est à l'origine, comme le confirme Marie Kucherova, ancienne directrice du musée de Dachice, où une partie de l'exposition permanente est consacrée précisément à l'histoire de l'apparition du sucre en morceaux.
Il s'est coupé un doigt en fondant un pain de sucre qui était la forme sous laquelle le sucre se vendait à l'époque. Comme on peut l'imaginer, ce pain de grande taille n'était pas très pratique et tailler dedans entraînait souvent ce type de blessure. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont été progressivement remplacés par le sucre en poudre et donc en morceaux pour permettre sa vente au détail. Mais avant cela, Madame Radova est probablement allée se plaindre auprès de son mari et des employés de l'usine pour leur demander comment faire pour éviter ce type de désagrément.
Les premiers morceaux de sucre alors fabriqués n'ont pas été conservés. Peut-être la bienheureuse Madame Radova les a-t-elle fait fondre dans son café ou dans son thé, peut-être les a-t-elle emportés avec elle, tel un secret jalousement gardé dans sa tombe. Qui sait ? Ce que l'on sait en revanche, comme le précise encore Marie Kucherova, c'est comment ces premiers morceaux de sucre ont été fabriqués.
Le principe était le suivant. Il y avait deux plaques en cuivre et après avoir été préalablement chauffées, le sucre liquide était coulé sur la plaque du bas. La plaque du haut, elle, était une sorte de moule qui disposait de 400 petits trous en forme de petits carrés. On étalait donc cette matière liquide, puis le pressage permettait d'obtenir ces petits morceaux qui étaient ensuite retournés sur la plaque du bas.
Plus tard, d'autres fabricants de sucre en Europe, artisans ou industriels, se sont eux aussi lancés dans ce mode de production. Ainsi, en 1875, en France, Eugène François produisait des morceaux de sucre de façon semi-artisanale en sciant des pains. Un peu donc à la manière de Madame Radova trois décennies plus tôt. Un peu plus tard, en 1880, en Belgique, cette fois, un maître compagnon anversois, Théophile Adante, mit au point les machines industrialisant la technique de production de Jakub Krzysztof Rad. Mais dans tous les cas, c'est bien en Bohême que tout a commencé. Marie Kucherova souligne d'ailleurs l'importance de l'obtention du brevet dans la disparition progressive de ces pains de sucre que Madame Radova, selon la légende, avait fini par maudire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Madame Juliana Radova s'est bien blessée en 1841. Son mari lui a certes produit ses premiers morceaux de sucre à l'automne de cette même année, mais il n'a obtenu le droit de production, qui était appelé privilège, que le 23 janvier 1843 de la Chambre de la Cour à Vienne. Quant au brevet de propriété industrielle et qui conférait à Jakub Krzysztof Rad le titre d'exclusivité d'exploitation de son invention, il lui a été attribué en avril 1844. La raffinerie a ensuite vendu le brevet dans différents pays environnants, en Suisse et dans les États allemands notamment, mais aussi par exemple en Angleterre. Et on peut dire que même si dans une forme beaucoup plus évoluée et moderne, le principe consistant à presser du sucre dans des moules est utilisé jusqu'à aujourd'hui.
Et si aujourd'hui à Cologne, en Allemagne, une autre statue met en scène l'illustre ingénieur et industriel allemand Eugène Langen avec un pain de sucre et une boîte de sucre en morceaux à ses pieds, parce que celui-ci a effectivement plus tard développé la technologie de sa production de masse, qu'on ne s'y trompe cependant pas. C'est bien en Bohême qu'un homme, un beau jour, a offert à sa femme la première boîte de morceaux de sucre, paraît-il même pour la petite histoire qu'il y en avait 350 de ces morceaux, mais quand on aime, dans les grandes histoires, on ne compte pas.
Ne coucouille, mamie là. nekupuj cukr, ach já jsem tvůj, má milá, já jsem tvůj cukr, hele podívej se pořádně, jaký jsem sladký, kup raději místo cukru, kilo mouky hladký, nekupuj, má milá, nekupuj cukr, ach já jsem tvůj, má milá, já jsem tvůj cukr, hele ať to vemeš, jak to vemeš, jsem tvé bílé zlato, i ten rozdíl věkový.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International. Depuis plus de 100 ans, le lycée Alphonse Daudet à Nîmes et le lycée Carnot à Dijon voient chaque année étudier entre leurs murs des élèves tchèques aux côtés des jeunes français. Ce sont au total près de 1000 jeunes tchécoslovaques puis tchèques qui ont pu bénéficier d'un programme à la longévité exceptionnelle. Portrait de 4 d'entre eux par Thibaut Maillet.
J'appartiens à la promo 2000-2003 de la section tchèque à Nîmes.
Moi, je suis arrivé à Carnot en 2009.
J'ai fait partie de la toute première après 89. Je suis arrivé au mois de septembre 90 à Nîmes.
En vrai, c'était un peu triste qu'on n'a même pas pu finir nos 3 ans à Nîmes. Avec la situation, c'était plus facile de ne pas le passer.
On enterrait, c'est-à-dire on était les derniers bacheliers de cette période très courte, entre 66 et 73.
Des jeunes garçons tchécoslovaques ont posé pour la première fois leur bagage en France pour y étudier lorsqu'a été ouverte la première section à Dijon en 1920. En 1923, une nouvelle section voit le jour au lycée de Saint-Germain-en-Laye et finalement, en 1924, c'est dans la ville de Nîmes qu'une troisième section est établie. Concrètement, cela signifie que chaque année, une dizaine de jeunes tchèques viennent encore de nos jours passer 3 ans en France, aux côtés des élèves des lycées Daudet à Nîmes et Carnot à Dijon. Ils y suivent les mêmes cours et passent leur baccalauréat en fin de terminale, la plupart du temps avec d'excellents résultats. Près de 100 ans d'histoire donc pour les sections, mais leur existence s'est calquée parfaitement sur le cours du XXe siècle européen, avec sa dose d'événements et de ruptures. En 1938, à la suite des accords de Munich, les sections sont fermées. Elles rouvrent brièvement en 1945, mais disparaissent presque aussitôt au lendemain du coup de Prague de février 1948, qui a vu l'arrivée au pouvoir du Parti communiste. En 1966, grâce à un ministre de l'Éducation lui-même passé par Dijon, les lycées français accueillent de nouveau des élèves tchèques, mais cela ne dure que jusqu'en 1973, lorsque des tensions entre Est et Ouest conduisent encore à l'arrêt du programme. Finalement, au lendemain de la Révolution de Velours, les sections de Nîmes et Dijon sont relancées et fonctionnent sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Celle de Saint-Germain-en-Laye, elle, reste close, le lycée ayant été fermé et transformé en école primaire. Kristina Krzyżova préside l'association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques en France. Selon elle, la longévité du dispositif ne tient pas seulement à la volonté des deux pays de mener à bien des relations bilatérales, mais également à l'attachement des anciens et anciennes à ce programme.
Donc je pense que c'est le fait que vous faites venir des jeunes pour une durée qui est très longue à cet âge-là, qui est très formatrice, qui crée des relations très fortes à ce dispositif et en même temps qui crée aussi des relations entre les élèves et les institutions qui les entourent, qui les encadrent. Parce que les élèves des sections tchèques, ils ont déjà été à peu près plus de 1000 qui sont passés par ce dispositif. Et ça crée 1000 histoires, 1000 relations amicales entre profs et élèves, entre institutions et des élèves, etc. Donc des situations qui sont faites pour durer.
Les remous politiques qu'ont subi les sections, Stanislav Stech les a vus de près. Il a été scolarisé au lycée Carnot de Dijon de 1970 à 1973. Partir en France après la répression du printemps de Prague, c'était alors une bulle d'air et un modèle radicalement différent.
Il faut dire aussi que dans les années 69-70, les gens, ils étaient encore un peu libres. Il y avait, je dirais, les derniers échos de cette libéralisation de l'année 1968. Donc, on avait l'accès justement à certains livres, films. Il y avait encore le souvenir de ces débats de 68, et donc bien sûr pour moi c'était comme un espoir de respirer encore un peu plus librement, mais j'étais pas trop politisé, il faut dire, à l'époque. ce qui m'intéressait, c'était beaucoup de maîtriser la langue, d'apprendre surtout cette envie, cette soif d'apprendre quelque chose de totalement différent de ce que je pouvais vivre chez moi.
Au-delà d'arriver dans un pays dit « de l'Ouest » plus libre, Stanislav Steyr se souvient également d'un système scolaire très différent qui l'a beaucoup surpris.
L'arrivée à Dijon, il y avait un choc, il y avait une, je dirais, c'est pas univoque, hein, c'est-à-dire j'arrive dans un lycée où il y a une discipline que je connaissais pas, internat, des manteaux, hein, je dirais des uniformes, un régime qui était quand même assez rigoureux. Je me souviens, au début, j'étais très surpris de ne pas avoir pratiquement pas de temps libre. On voyait aussi quand même des équipements assez vétustes, hein, ça il faut dire. À l'époque, au lycée, il n'y avait pas de salle moderne, hein, d'infrastructure moderne. Et il y avait ce régime de surveillants généraux, etc. On était toujours tout le temps suivis, hein, et surveillés. Et puis le contraste avec les cours, avec les enseignements, avec les copains français, les discussions, qui étaient des discussions, je dirais, très, très vives, hein, pas seulement sur les questions, je dirais, de culturelles ou de contenu d'apprentissage, mais aussi politiques.
La réouverture des années 60 ne dure pas, et Stanislav Steyr quitte alors le lycée Carnot avec un goût amer, malgré de belles années passées à Dijon.
C'était la dernière promotion. Le dernier groupe de 9, on est resté en l'année scolaire de 72-73. On était les derniers, on disait, on enterrait la section tchécoslovaque.
Après son baccalauréat, Stanislav Steyr rentre en Tchécoslovaquie. Il est devenu professeur à l'université Charles de Prague et entre 2015 et 2017, il a occupé les fonctions de vice-ministre, puis de ministre de l'éducation en République tchèque. Dijon, Nîmes, Saint-Germain-en-Laye, c'est donc un passé riche, un présent fort d'une trentaine de jeunes tchèques actuellement scolarisés en France. Si les sections ont connu un dernier soubresaut au cours des années 2010 à cause de problèmes financiers, aujourd'hui, Kristina Krzyżová se dit confiante et ose conjuguer les sections tchèques au futur.
Mais je pense que nous avons, avec tous les partenaires qui encadrent les sections, les deux ambassades, le ministère de l'Éducation, les deux villes, les régions, tous ces partenaires ont pu trouver la solution. Et je pense que la volonté de tous les partenaires d'en trouver une a exactement montré la raison d'être d'un programme, comme nous l'avons dit au départ, qui a été extrêmement bilatéral et qui a toujours donc une place dans une Europe unie, parce que la construction de l'Europe passe par la découverte de nous tous, par un partage. Et tout ça ne peut se faire que si nous nous rencontrons, si nous vivons ensemble, si nous partageons.
Un défi de taille reste toujours à relever pour assurer la pérennité du programme, alors que le nombre de candidatures baisse depuis plusieurs années. Selon Stanislav Steyr, la concurrence est désormais rude avec d'autres programmes moins contraignants.
Il y a beaucoup moins de candidats qu'il y a 30 ans et qui se présentent au concours. Parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités un peu plus flexibles pour les jeunes, hein. C'est-à-dire que les parents peuvent les inscrire, faire une année d'études un peu partout, en Allemagne, en Autriche, en France même. C'est compliqué parce que la section actuellement, d'abord politiquement, je dirais, et même mentalement, ce n'est plus la même chose qu'il y a 50 ans. Ce n'est pas le voyage dans le royaume de la liberté, de la démocratie.
Merci Thibault. Rendez-vous jeudi sur Radio Prague pour la seconde partie de ce sujet consacré aux sections tchécoslovaques et tchèques en France. C'est la fin de cette émission sur Radio Prague International. D'ici demain, vous retrouvez toutes nos informations, reportages et entretiens sur français.radio.cz et aussi sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Naslyšenou.